Ça fait plaisir d'être en bas. Pour une fois, j'étais pas très loin pendant 2 mois, j'étais juste au-dessus. Mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir être à nouveau ici et de pouvoir être avec vous et partager ensemble la parole de Dieu. Et ce matin, je vous invite à méditer un texte tiré de l'évangile de Matthieu. Ce sont des paroles de Jésus, un de ses enseignements. Et il enseignait là à ses disciples et à une grande foule qui le suivait. Alors ce texte, il fait partie d'un premier ensemble dans l'évangile de Matthieu qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Et ce Sermon sur la montagne, il a inspiré toute l'éthique chrétienne, mais plus largement aussi. On le retrouve dans l'éthique en général, dans d'autres religions ou dans des éthiques athées. Ces quelques versets, on les appelle les béatitudes et je vous invite à la lecture. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Amen. Alors à la lecture de ces paroles heureuses, on a quand même besoin de poser un constat. Un constat qui paraît évident, mais ce sera aussi important de ne pas en rester à ce constat et de voir comment ces paroles du Christ vont au-delà et nous apportent des réponses précieuses. Alors ce constat, qu'est-ce que ça donne? À première vue, on dirait que Jésus ne vit pas dans son monde. On dirait que Jésus parle d'une autre réalité, qu'il est un peu sur son nuage. Il n'y a qu'à regarder notre quotidien dans le monde, avec sa violence, son racisme, sa méchanceté, notre quotidien aussi à nous, avec les injustices peut-être que l'on subit ou que l'on fait subir, les difficultés relationnelles, les difficultés à pardonner ou à faire la paix. Et on peut faire appliquer ce constat à chaque béatitude. Heureux ceux qui sont humbles. Ça, on pense tous pouvoir y arriver. Mais ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend que de nous-mêmes. Heureux ceux qui pleurent. On peut penser à toutes ces situations difficiles qu'on a vécues ou qu'on vit en ce moment, où on a pleuré, et où on se dit, pourquoi tant de difficultés? Et quid de celles et ceux qui font pleurer les autres? Heureux ceux qui sont doux. Mais qui est doux autour de nous? Moi, mon prochain, mon frère, ma sœur, mes parents, mes enfants, mes collègues, mes amis. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste. Probablement qu'ici, on a tous faim et soif d'un monde juste. Mais ce monde, il est rempli d'injustices. Et franchement, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas simple pour faire appliquer la justice, ne serait-ce qu'un peu. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres. Est-ce que l'être humain n'est pas plus préoccupé que les autres soient bons envers lui plutôt que l'inverse? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Qui d'entre nous peut se targuer d'avoir un cœur pur? Et on se souvient de cette autre parole de Jésus qui disait à ses disciples, « C'est du cœur que vient ce qui est impur et non ce qui y rentre. » Heureux les artisans de paix, on est bien d'accord, mais la paix, elle est où la paix dans notre monde rempli de guerre et de violence, et plus proche dans nos cercles sociaux, souvent déchirés par les rivalités, la jalousie. Un enseignant d'histoire-géographie disait, alors c'est pas Diego, hein, en reprenant une citation plus ancienne, « Pour vivre heureux, vivons cachés. » Celle-là, on la connaît. Mais lui, il rajoute « Vivons cachés des réalités. » Et pourtant, il nous faut bien vivre dans notre réalité présente. Il nous faut bien vivre notre quotidien. Et je crois là qu'il y a une première réponse face à ce terrible constat qu'on a posé. Vivre notre réalité présente avec nos limites, mais aussi avec foi, avec confiance, avec encouragement. Encouragement parce que ce texte nous encourage à rechercher l'humilité. Il nous encourage à pleurer avec ceux qui pleurent et par conséquent à ne pas faire pleurer. Le Christ nous encourage à vivre dans la douceur avec notre prochain, de rechercher cette justice inconditionnelle pour tous. Jésus nous encourage à vivre dans la générosité et dans la bonté envers notre prochain, mais aussi dans la paix, comme signe d'un cœur pur, d'un cœur honnête. Alors on l'a dit, il faut vivre avec nos limites, il nous faut accepter nos limites, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, parce que qui peut prétendre cocher toutes les cases? Qui peut prétendre être heureux de la façon dont le décrit Jésus ici? Personne. Et pour autant, ce n'est pas une raison pour vivre dans un certain fatalisme ou pour tout abandonner. Dans l'autre sens, ce n'est pas une raison non plus pour multiplier tous les efforts mentaux, spirituels, physiques. Plus on prie, plus juste et compatissant on sera. Non, ce n'est pas vers les extrêmes qu'il faut chercher la réponse. La réponse, elle est plutôt dans l'acceptation de nos limites et dans la confiance en Dieu. Les deux à la fois, les deux en même temps. Et c'est avec confiance que finalement on veut vivre notre réalité, notre quotidien, souvent limité, mais tout de même un quotidien plein de promesses et d'espoir. Vivre notre réalité avec nos limites, mais dans la recherche de l'humilité, de la douceur, de la paix, de la bonté, de la justice, de la compassion, en faisant confiance à Jésus. Et justement, pourquoi faire confiance à Jésus? Alors, on pourrait déjà répondre que c'est parce que c'est lui qui le dit. C'est Jésus qui enseigne. C'est lui, le rabbin, dans ce cas, l'enseignant, le sachant. Et il enseigne d'une façon bien typique. Bien typique qui se trouve aussi dans l'Ancien Testament. Notamment au psaume 1, par exemple, où il y a aussi des béatitudes. Mais ce n'est pas une réponse suffisante. L'argument n'est pas assez solide. Alors, un argument de plus, c'est celui de la différence. Une des différences entre Jésus et nous, c'est justement qu'il incarne ses béatitudes. Il incarne ses affirmations à la perfection. Il n'a pas seulement essayé de les vivre en les réussissant bien, il les incarne. Il est l'humilité même. Il est la douceur. Il est la paix, la bonté, la justice, la compassion, la pureté. Et au-delà de l'être, il l'a vécu, et nous pouvons le voir dans les différents récits des évangiles. C'est lui l'heureux. C'est lui, celui qui est heureux. C'est le Christ qui est cet heureux, qui est humble de cœur, qui console, qui est doux, qui est juste et justice à la fois, qui est plein de bonté, qui a le cœur pur. C'est lui, le Christ, qui apporte la paix et qui est lui-même la paix pour ce monde. En fait, ces béatitudes ne sont pas une nouvelle loi, toujours aussi irréalisable parce qu'elle joue avec la perfection qu'on ne peut pas atteindre. Non. Mais si ces béatitudes sont une éthique qu'on peut rechercher à vivre dans notre quotidien, elles sont surtout la description d'une personne, le Christ. Elles décrivent simplement qui est Dieu. Elles décrivent l'amour de Dieu pour nous, pour chacune et chacun d'entre nous. Oui, c'est lui. C'est lui la justice, la paix, l'amour. Et ce qui est absolument incroyable, je trouve, c'est que ces béatitudes ne sont pas soit qu'un objectif inatteignable, soit que la description d'un Dieu qui serait loin de nous. Ces béatitudes sont aussi une espérance pour nous. Alors pourquoi ces quelques phrases seraient pour nous signes d'espoir ? Dans l'évangile de Matthieu, où nous avons lu cet extrait, ces paroles de Jésus, elles apparaissent comme son premier enseignement pour Matthieu. Son introduction, sa présentation de qui il est, de la raison de sa venue, de son incarnation, du fait que Dieu soit devenu homme. Et dans ces béatitudes se résume, se concentre à la fois le constat de la réalité terrestre, d'une humanité sans Dieu, et à la fois la description même de qui est Dieu, mais aussi l'espérance qu'il nous donne. En effet, Dieu n'est pas devenu semblable à nous juste pour essayer de voir ce que c'est d'être un homme. Il est devenu semblable à nous pour vivre avec nous. Alors, certains diront, il n'a pas vécu longtemps, à peine 40 ans, mais l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée, sa première venue est une annonce de sa seconde venue, de son retour, qui lui sera permanent. Son retour qui sera marqué par sa présence parmi nous, une présence dont les conséquences sont décrites dans ses béatitudes. Ce sera un royaume des cieux, comme dit le texte symboliquement, même si ce sera la terre, un endroit où l'humilité règnera, où il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrance, seulement une consolation à jamais. Ce sera un héritage où il n'y aura que douceur et où il n'y aura que justice, où la bonté et la générosité seront normales et réciproques, sans arrière-pensée, et où nous verrons Dieu dans sa présence et où nous serons appelés enfants de Dieu par la paix qui sera vécue de façon permanente. Et c'est d'ailleurs comme ça que se termine la confession de foi de notre union d'Église, telle est notre espérance. Oui, nous pouvons être heureux, vraiment heureux. Nous sommes heureux de pouvoir vivre cette vie pour le Christ, celui qui est heureux par excellence. Et nous sommes heureux aussi car il vivra avec nous, pour toujours. Et pour conclure ce temps, je vous propose simplement de relire ce texte ensemble, et après quoi on pourra méditer ces paroles accompagnées par le piano. Nous lisons. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Amen.